regardez-le.
CO2, mon amour.
Nous sommes en train de construire le plus grand barrage du monde. Un travail de titan.
Denis Chessou.
Pour l'amour de Dieu, cher ingénieur, ne prenez pas ça mal, mais il y a certains de mes paroissiens qui sont un petit peu inquiets. Et je dois dire que je le suis aussi.
Voyez-vous, mon père, vous savez comment on appelait cette vallée avant le barrage? La gorge du diable. Eh bien, le lac que nous allons créer va transformer cette nature hostile en une nature bénéfique. Demain, tous vos paroissiens auront une voiture.
Sur France Inter.
C'était La Folie des Hommes avec Michel Serrault, vous l'avez reconnu. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Une émission CO2 de mon amour qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature comme on va faire avec ces barrages. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Paul Percheron nous accompagne aujourd'hui à la technique et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès. Je vais rajouter aussi Philippe Reltien et Jérôme Boulet qui réalise l'émission. Qui commence toujours par une petite humeur. Bon, là, on va pas être dans les barrages. Tu fais quoi, toi, le mois de juin? Du chaud, du froid? En fait, bah, tu ne sais pas. Tu passes un deal avec l'anticyclone et le lendemain avec novembre en robe de chambre. Avec tout cela, les abeilles, bah, font ce qu'elles peuvent pour se nourrir, talus, champs, jardins, arbres, fleurs. Mais, butinons dans la joie pour les happy days qui fêtent leurs 10 ans aujourd'hui dans 130 villes. Les abeilles se cachent pour mourir. Nous, depuis 20 ans, ne se cachent pas pour le dire. Cette affaire de pesticides est quand même un immense scandale en matière de santé publique. On connaît le taux de contamination des différents compartiments environnementaux, l'impact sur la faune, sur les humains. Bref, tout ça, on le sait. Et bon peuple, bah, tout ne va pas si mal parce que vous comprenez le principe de précaution. C'est quand même de l'anti-progrès. Alors, les agriculteurs bossent dur, hein, ne sont pas des assassins, font avec les molécules autorisées que leur vendent leur coopérative, d'ailleurs à qui ils vendent leur production. Donc tout va bien, on referme le cercle sans trop le remettre en question. On a beau nous vanter le mérite des abeilles en ville, devenues réfugiés chimiques, plus à l'aise avec les pots d'échappement et le kérosène que les champs de colza, il n'est pas certain que devenir maille à l'abeille soit un métier d'avenir. Ouais, et on nous vante aussi les drones pollinisateurs. Ah là là, au secours les enfants. Mais bon, on l'a compris, le gouvernement s'écologise, en tout cas dans les discours. Le chemin de Damas va être un petit peu long, on va peut-être se permettre de juger sur pièce hein, dans cette émission, les lois, les décrets, la future PAC et puis le décalage entre les actes et donc les discours. Qu'est-ce que nous avons de beau? Ah oui, on aimerait bien aussi que Monsanto, pierre autour du cou de Bayer, on le sait, ne soit pas la seule à s'intéresser donc à la classe ouvrière catégorie hyménoptère. Certes, on a gagné sur les néonicotinoïdes et planter 4 ruches pour une fortune sur le toit de son entreprise, c'est un bon vecteur d'image, c'est très bien, mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Chaque année, 20 à 30% des ruches disparaissent sous l'action de causes multiples, hein, y compris aussi les mauvaises pratiques des apiculteurs, parce qu'il y en a. Et c'est à croire que la SARL miel toute fleur, eh ben, qu'on a tendance là-bas aussi, comme partout, à compresser les effectifs. Alors oui, butiner, mieler, essaimer les filles. Mais que voulez-vous, à force de lire Blanche-Neige et la sorcière avec sa pomme farcie de saloperie, bah les poisons s'y habituent, hein, on aime ça. Et les abeilles aimeraient ne plus faire le buzz, mais tout simplement le... Eh oui, le bzit, c'est comme ça. Bon, par ailleurs, hein, si certaines abeilles qui nous écoutent avaient l'intention ce soir de butiner au Stade de France sur la pelouse où aura lieu la finale Toulouse-Clermont-Ferrand, je leur dis, attention, ça va pas être des fleurs bleues du tout sur le stade, même si leur parure ressemble parfois à un joli maillot de rugby. Elles sont un maillon dans la chaîne de la biodiversité. On va parler dans quelques instants donc des barrages. Nos barrages et la France, on va dire, céderont-ils face à la Commission européenne qui veut une libre concurrence sur les eaux, sur ces barrages, qui turbinent certes, mais qui irriguent, font vivre les rivières, et de l'amont à l'aval. Donc on va essayer de décrypter un sujet qui n'est vraiment pas simple. Et tenez, écoutez, c'est court, mais dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe, c'était donc mercredi à l'Assemblée.
Nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule pas seulement une production électrique, mais des vallées et des régions entières. Nous respecterons bien entendu le droit européen, mais nous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français.
Alors, on respectera le droit européen et en même temps, on ne morcellera pas. Donc, on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Bonjour Aurélien Bernier.
Bonjour Denis Chessou.
Alors vous êtes auteur, vous êtes essayiste, vous avez écrit « Les voleurs d'énergie ». Déjà, ça donne le ton, donc l'accaparement, la privatisation de l'électricité, du gaz, du pétrole. C'est aux éditions donc Utopia. Vous êtes aussi collaborateur régulier au Monde Diplomatique, qui a sorti donc au mois de juin donc un très bon dossier sur justement l'hydroélectricité. Dans quel contexte on est? Alors après, on va raconter vraiment plus dans le détail, mais dans quel contexte, on va dire, énergétique arrivent ces barrages aujourd'hui, Aurélien?
On est dans un contexte, on peut dire, de privatisation à marche forcée de l'énergie. Alors un mouvement de privatisation qui se limite pas à l'énergie, mais qui touche en ce moment particulièrement l'énergie. C'est-à-dire que on avait une gestion publique dans un certain nombre de pays, dont la France, de l'électricité, du gaz. On est dans une phase de reprivatisation. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que en tant que particulier, on peut être des marchés par ce qu'on appelle des fournisseurs alternatifs de gaz et d'électricité, parce qu'on a ouvert ces marchés à la concurrence.
C'est-à-dire que EDF était obligé, en fait, de vendre à tarif extrêmement préférentiel 25% de sa production nucléaire. Donc c'est là-dessus, effectivement, que les énergéticiens font leur miel principalement. Je ne parle pas de tous, exactement, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur les énergies nucléaires comme Enercoop, mais les autres, oui.
Exactement. Alors c'est pour ça aussi qu'on a une augmentation des prix de l'électricité au 1er juin là de presque 6%, qui est liée à cette privatisation. Et c'est aussi pour ça on ouvre à la concurrence la gestion des barrages hydroélectriques. Voilà, tout ça relève en fait de la même logique de démanteler un service public et de le livrer par petits morceaux privés.
Alors, donc ça, c'était un contexte général. On va revenir, on va pointer vraiment sur l'hydroélectricité. Quand on parle de privatisation, en fait, l'État ne vend pas les barrages en tant que tel. Il restera propriétaire concédant, donc c'est aussi important dans les termes. C'est-à-dire qu'il reste, évidemment, on va dire que les murs restent donc à l'État, mais il est décisionnaire de l'attribution donc de ces fameuses concessions. Et ça relève quand même autour de 150 barrages. On y revient. Dans quelques instants, nous avons de la musique aussi. Eh oui, c'est sur France Inter et c'est aussi dans CO2, mon amour. Alors, qui entend le lieutenant Nicholson. Mais non, il n'est pas seul, il y a Jojoa. Mais oui, bien sûr, ils sont moins deux, tous ensemble. Oui, parfois tous, enfin là c'est tous ensemble.
Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Tous. me suis mis à rapper, à chipper, à choper. Je me suis mis à choper.
Oui, Jérôme Boulet, donc mon réalisateur, lui disait tu peux faire très très ça pour le désannoncer, donc tranquillement. Donc je lui dis au revoir, parce que je suis un garçon poli.
On construit un barrage. Après, on lance de la caillasse de l'autre côté de la rivière pour faire croire aux autres qu'on a traversé dans l'autre sens.
CO2, mon amour.
Une fois qu'ils sont au milieu, on casse le barrage et on les noie.
C'est drôlement ingénieux. Hein.
Ouais, le seul problème, c'est qu'on a passé 4 semaines à construire un barrage, ça fait un peu mal au cul de le détruire.
Sur France Inter.
Ben oui, c'est ça. Là, il ne s'agit pas forcément de les détruire, même si autre émission l'a déjà fait sur un certain nombre de seuils donc, qui barrent les rivières et qui empêchent peut-être le bon état écologique des eaux. D'abord, merci à Aristide Bergès, qui ne nous écoute pas parce qu'il n'est plus de ce monde, ingénieur, entrepreneur, qui a compris donc, la force hydraulique et qui a inventé les mots de houille blanche. Alors, notre hydraulique, c'est quand même la première source d'électricité renouvelable en France et une grande partie aussi dans le monde. Donc, c'est les chutes d'eau, ce sont les barrages avant tout. Aujourd'hui, le barrage est le seul outil de stockage de l'électricité. Donc, dans la transition énergétique, ça va être encore plus indispensable demain, parce que c'est une énergie qui est souple, qui est mobilisable en quelques minutes. Quand vous avez un pic de consommation, on ne peut pas faire ça avec le solaire, avec l'éolien qui sont des intermittents. Et le stockage n'est pas encore résolu. Pareil pour le nucléaire qui crache son feu, on va dire, à jet continu. Alors, l'hydraulique en France, c'est en gros 25 000 emplois, c'est 2,5 milliards de recettes brut. C'est 12, donc à 13% de notre production nationale énergétique. Et EDF, donc en contrôle, 83%. Nous écoutons tout d'abord un petit son qui avait été tourné par Philippe Reltien. C'est Yves Giraud qui est le directeur EDF de l'hydroélectricité.
C'est-à-dire que derrière nos barrages, nous gérons trois quarts du stock d'eau douce de France. Et donc il y a un enjeu essentiel de gestion de l'eau, et je dirais même de partage de l'eau avec l'ensemble des utilisateurs, les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs, les touristes en été sur nos retenues, les kayakistes à l'aval des barrages, les fournisseurs d'eau potable, parce que l'eau, quand vous soutenez l'étiage d'une rivière, c'est-à-dire quand vous baissez votre retenue pour fournir de l'eau dans la rivière, c'est une eau que vous allez retrouver à l'aval et qui va permettre de soutenir le niveau des nappes phréatiques. Et ensuite, il y a effectivement un autre enjeu qui est un enjeu économique. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous avons géré ces barrages comme un tout faisant partie de notre parc de production. Et le risque serait qu'effectivement, avec une mise en concurrence, nous perdions les aménagements, les barrages les plus rentables, alors même que d'autres barrages moins rentables ont des formes de mission de service public, s'agissant en particulier de la gestion de l'eau.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, EDF a réussi à lisser entre les pertes et donc les bénéfices sur les barrages. Ils n'ont pas non plus envie de garder que les canards boiteux et que l'on donne les bonnes concessions. Et pourtant, ça peut être le cas. Je vous fais un petit historique très rapide. 1993, gouvernement socialiste Bérégovoy qui adopte la loi Sapin, qui impose de larges modalités de mise en concurrence. Ça, c'est le point de départ. 2004, sous Raffarin, EDF devient société anonyme. Donc, on ne peut pas échapper à la mise en concurrence. Avril 2010, Borloo annonce le renouvellement par appel d'offres de 51 concessions. On traîne des pieds, on ne passe pas à l'acte sous Fillon. L'État français, très souvent, se défausse sur la Commission européenne qui est ultra-libérale et qui demande l'application juridique découlant de cette loi socialiste Sapin. La Commission et Margrethe Vestager sortent le glaive. Nicolas Hulot, quand il était ministre, a proposé à Bruxelles de verser 150 concessions sur les 500 barrages qui sont gérés aujourd'hui par EDF à la concurrence. Bon, il n'est pas passé à l'acte. On est sur une filière d'excellence qui a 75 ans. Quels seraient, alors là, Léry, je me tourne vers vous. Bonjour Christian Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes écologue, vous êtes spécialiste des systèmes aquatiques continentaux, vous êtes directeur de recherche émérite à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous venez de sortir La mémoire des fleuves et des rivières, donc l'histoire des relations entre les hommes, les cours d'eau à travers les siècles, aux éditions Ulmer. C'est quoi les risques? Parce que si on a, on va dire, plusieurs concessionnaires différents, des privés, EDF, sur une même rivière où vous avez 5 ou 6 barrages, comment on fait pour s'entendre, quoi?
Il faut qu'il y ait une coordination quelque part, qui existe déjà en partie, hein, parce que EDF n'est pas le coordinateur de la régulation des barrages.
Il y a CRTE.
CRTE, oui.
Donc c'est le réseau de transport électrique, voilà. Pour les gens qui...
Voilà. Donc il y a déjà quelque part un réseau de centralisation et de coordination.
Oui.
Donc la question, c'est de savoir comment ça va s'articuler avec plusieurs opérateurs, puisque c'était surtout EDF qui était jusqu'à présent le principal opérateur.
Alors Aurélien Bernier, derrière tout ça, tout va reposer en fait sur le cahier des charges qui pourrait être demandé donc aux opérateurs qui vont se mettre en liste. Parce que là il y en a donc un certain nombre hein, qui sont importants. Vous avez E.ON en Allemagne, vous avez Starcraft, vous avez Vattenfall, vous avez même aussi les Chinois avec l'entreprise des Trois Gorges. Enfin bon, et on peut très bien avoir aussi Hydroélectricité Québec qui peut s'y intéresser. Donc ça va reposer sur quoi, le cahier des charges, et puis d'abord, est-ce que c'est fait, cette affaire?
Est-ce que c'est fait quoi? Est-ce que c'est fait le
non, mais je veux dire, est-ce que c'est plié? Parce qu'évidemment qu'on est libre concurrence, comme on dit merveilleusement. Donc c'est ça. L'idée, c'est quand même de faire lâcher donc des barrages donc à EDF qui sont très bien gérés aujourd'hui. C'est quoi donc? Est-ce que c'est terminé? Parce qu'on a entendu comme les mots du Premier ministre. Là, c'était pas inintéressant ça. Au mois de février, il nous dit 150 barrages donc vont être concédés parce qu'on est sur une fin de concession. Très bien. Et puis à côté de ça, là, il sort quand même une phrase. Alors, il peut pas dire plus. C'était un discours donc de politique générale, mais quand même quoi. En disant à la fois, on va pas contrarier la Commission européenne, mais en même temps, il faut pas morceler non plus les rivières.
Oui, le gouvernement dit un peu tout et n'importe quoi en même temps. Bon, ce qui se comprend vu le contexte, on a quand même un mouvement social depuis le mois de novembre qui est très fort. On avait les élections européennes en plus avec un score important des écologistes dans plusieurs pays. On a le contexte du référendum d'initiative populaire sur les aéroports. Donc bon, le gouvernement est quand même un peu mal à l'aise par rapport à cette question. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'Union européenne, cette ouverture à la concurrence doit impérativement avoir lieu. Parce que les traités européens imposent l'ouverture à la concurrence de ce type de service et que l'Union européenne veut la mettre en place par tous les moyens. Et je dirais, après, c'est de la mécanique. C'est-à-dire que on peut décider à un moment de s'attaquer aux barrages, on va décider à un autre moment de couper en morceaux EDF pour séparer les activités rentables qui vont être privatisées de celles qui ne sont pas.
On va socialiser les pertes de la production, autrement dit des centrales nucléaires. Bon, ça ok, mais on va quand même revenir sur l'hydroélectricité parce que j'aimerais quand même que l'on serre un tout petit peu sur l'hydroélectricité. On rappelle que c'est quand même une filière d'excellence qui a 75 ans. Et je l'ai pas dit, mais pourquoi effectivement on langue dessus? Parce que c'est amorti depuis très longtemps, donc c'est parfait pour attirer les énergéticiens privés européens et d'ailleurs. Parce que c'est l'électricité la plus rentable et la moins chère de France. Vous la sortez entre 20 et 30 euros le mégawatt. C'est 35 à 46 pour le nucléaire. Donc en fait, c'est une aubaine merveilleuse.
Bien sûr, c'est la même logique que pour les autoroutes où on avait des investissements qui avaient été amortis. On a des bénéfices extraordinaires. Et donc, on décide de privatiser pour des raisons purement idéologiques. Et là, on est exactement dans le même cas de figure où on va donner ces concessions, enfin attribuer ces concessions à des opérateurs privés. Alors, dans la liste que vous avez faite, on peut rajouter Total aussi, hein, qui s'est déclaré candidat à la reprise de barrages. Donc Total, qui est quand même un des plus gros pollueurs de la planète et qui va redorer un peu son image en faisant l'acquisition entre guillemets de d'énergie renouvelable.
Alors je vous propose, pardonnez-moi Aurélien Bernier, je vous propose d'écouter une phrase de Philippe André, là, qui est syndicaliste EDF à Sud Énergie sur le sujet.
La pression sociétale, elle dit je veux plus d'énergie fossile. Il est pas bête Total, il réfléchit quelle autre vache à lait je peux prendre. Il va prendre les barrages. Enfin, j'espère qu'on ne le laissera jamais faire. Mais évidemment, le patron de Total est sans ambiguïté. Vous allez trouver dans la presse des dizaines d'articles où il le dit. Moi, je veux les barrages en France. Et il a raison. Le chiffre d'affaires de l'hydroélectricité, annuellement, encore une fois, parce que Monsanto n'a pas eu le temps de breveter les gouttes d'eau de pluie, c'est 4 à 5 milliards. Eh bien, il les veut, ces milliards, c'est tout. Il n'y a pas de souci, c'est facile.
Alors, on l'a bien entendu, je reviens vers vous, Christian Lévesque, donc écologue. Les barrages ne sont pas que des producteurs, évidemment, d'électricité. Il y a l'amont, il y a l'aval. C'est-à-dire que lorsque l'on prend donc un fleuve comme la Garonne, comme la Dordogne, bah, vous arrivez à l'estuaire, vous arrivez à Bordeaux, vous arrivez dans les grandes villes. Donc, il y a quand même toutes les fonctions qui sont derrière. Ce n'est pas que, évidemment, du turbinage d'électricité.
Oui, alors on a abordé rapidement la question tout à l'heure. Il est évident que les barrages à l'heure actuelle servent à bien d'autres choses qu'à l'hydroélectricité. Il y a notamment l'irrigation, on l'oublie trop souvent, mais beaucoup de barrages...
Les agriculteurs ne l'oublient pas, eux, hein, ça y est, ça. Ouais.
Et notamment quand on est dans le sud de la France, l'essentiel de l'agronomie ou de l'agriculture du sud de la France est possible grâce à l'irrigation, notamment avec le canal de Provence.
Oui, donc Serponçon avec l'Ubaye et la Durance.
Et toute la Durance, oui, derrière. Hein. Bon, il y a également toutes les activités d'ordre social, on peut appeler ça, ludique, vacances, tourisme, etc., qui sont effectivement importants.
Exemple encore le barrage de Serponçon, enfin, on peut citer plein de lacs qui existent partout, quoi.
C'est aussi un soutien d'étiage dans un certain nombre de cas. Paris, par exemple, la Seine à Paris serait à sec en certaines périodes si les barrages réservoirs de la Seine ne lâchaient pas de l'eau pour alimenter le cours de la Seine. Donc, et ça pose la question, là, cette question du soutien d'étiage du futur climatique. Parce que quand on regarde un peu les travaux qui ont été faits dans le cadre de programmes prospectifs, notamment sur le climat, certains prévoient une diminution assez forte de la pluviométrie sur le bassin de la Seine. Non,
mais c'est pour ça que c'est quand même un enjeu extrêmement stratégique. Parce que est-ce qu'un opérateur va anticiper les sécheresses en réfléchissant à un plan de stockage sur le long terme? On voit très bien que déjà depuis 30 ans, donc les besoins ont commencé à exploser. On a un constat qui est mesuré. Un degré de réchauffement climatique en moyenne avec l'évaporation de l'eau qui va avec. C'est très important, ça.
Il y a l'évaporation de l'eau qui va avec. Donc la question, elle est effectivement, est-ce qu'on aura toujours de quoi remplir les barrages? On peut la poser en ces termes. Hein, c'est-à-dire que quelque part, il va y avoir un choix à faire dans les usages de l'eau, soit pour l'agriculture, soit pour l'hydroélectricité. C'est déjà en partie. Et pour l'environnement, j'allais dire aussi pour l'environnement. Parce que quand même, on a réussi à avoir des améliorations assez fortes en matière de biodiversité des cours d'eau par les débits réservés, c'est-à-dire l'augmentation du débit des barrages qui permet effectivement aux rivières de maintenir une vie aquatique intéressante.
Alors je vous propose d'écouter Arnaud Bélanger qui est le directeur donc de Starcraft, hein, qui est norvégien, donc directeur de Starcraft en France. Donc c'est un des opérateurs, hein, qui se positionne aussi pour essayer de récupérer une partie de ces fameux 150 barrages. On va voir où on est. Ce que je vous dis, c'est encore assez flou, hein, la position du gouvernement. Bon, ok, on ouvre, mais voilà, on a entendu les discours du Premier ministre. Donc voici ce qu'il nous dit, et ça c'est intéressant parce qu'on est donc sur la Dordogne, et sur la Dordogne vous avez 5 barrages.
Aujourd'hui, sur la Dordogne, vous avez deux opérateurs. Vous avez Engie et vous avez EDF. De la même façon que nous le faisons en Norvège, nous estimons que nous pouvons proposer à l'État d'être un troisième acteur sur la Dordogne et de pouvoir, sous la régulation de l'État, opérer ces barrages pour faire en sorte de respecter les besoins des pêcheurs, les besoins d'irrigation, les besoins de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes autour de la rivière en adéquation avec les autres acteurs, comme aujourd'hui EDF le fait avec Engie. Ce que je veux dire, c'est que le mode de fonctionnement à 3 est faisable. Nous le pratiquons en Norvège à 4. Il faut avoir en tête que cette concession, cette prestation de service est très encadrée par les services de l'État. Nous visons 1000 MW de capacité. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, ce qui est mis à l'offre, c'est 5000 MW potentiel, donc 20% du marché. Donc nous allons démarrer avec une concession et puis au fil de l'eau, nous allons déployer des services tels que ceux que gère EDF aujourd'hui.
Alors donc discours, ce qui est normal, hein, extrêmement rassurant donc sur le sujet au micro de Philippe Reltien, et quid des investissements futurs?
La conséquence de ce statu quo, de la non-connaissance pour EDF ou Engie, de savoir si les concessions qu'aujourd'hui ils opèrent seront prolongées, la conséquence de cela, c'est que des investissements, non pas les investissements de sécurité naturellement, mais les investissements pour de la nouvelle production, ne sont pas mis en œuvre. Et donc, nous estimons que ce serait bien que l'État prenne cette décision de renouvellement des concessions pour clarifier ce paysage. Nous pouvons arriver avec une capacité d'investissement. Statkraft, ça sera 1 milliard.
Alors, des investissements sont déjà obérés hein, face à l'incertitude qui pèse sur le destin des barrages. Ça, c'est Jean-Bernard Lévy, donc le patron d'EDF, qui le dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans les travaux qui ont évidemment profité aux acquéreurs. Que l'on comprenne bien quand même les enjeux. Parce que sur certaines rivières, vous avez par exemple sur le Lot, la Truyère, je crois que vous avez 9 barrages. Et donc, si vous avez plusieurs opérateurs privés qui sont dessus. Alors après, c'est très compliqué. Hein, l'histoire des appels d'offres, c'est extrêmement compliqué. Là, je ne rentre pas dedans. Mais chacun va peut-être avoir un intérêt différent. L'intérêt, c'est quand même de turbiner au moment où le prix de l'électricité est le plus fort, au moment des points. Donc, comment on va faire pour que on puisse avoir donc un réseau, je dirais, social de l'eau de l'amont à l'aval, Christian Lévesque?
Je n'ai pas de réponse évidente à cette question. Je crois qu'effectivement, ça fait partie des négociations d'imposer un certain nombre de réglementations dans l'usage de ces barrages aux opérateurs privés. Et là, c'est une question finalement de coordination. C'est ce qu'on abordait tout à l'heure en disant à trois, on peut peut-être s'entendre et faire en sorte que les choses fonctionnent. Mais il y a une vraie question qui est posée là. Et c'est vrai que on ne peut pas turbiner à toute période. Il y a des problèmes de danger pour la population. Hein, il y a des problèmes de danger pour la faune. Et donc, il y a à réguler un peu cet usage des barrages.
Oui. Alors, bon, évidemment, les gens ne sont pas inconscients. EDF, ils ont quand même la culture de la sécurité, c'est leur truc. Hein, oui. Vraiment au départ, oui. depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment ça qui est là. Mais alors, donc, Aurélien Bernier, comment vous voyez, vous, cette affaire? Parce que, bon, derrière tout ça, on dit il y a une position dominante d'EDF. Donc, la Commission européenne tire dessus pour, effectivement, éclater donc, ce monopole. En même temps, position dominante, EDF perd 100 000 clients par mois au profit du privé. Donc, c'est pas forcément. Enfin, c'était ce qui était le cas à une période, l'est peut-être beaucoup moins aujourd'hui.
Oui, c'est moins le cas, puisqu'on a créé cette concurrence sur le marché de l'électricité où de nouveaux opérateurs, les premiers étant Engie et Total, peuvent acheter de l'électricité en bourse sur le marché européen. Et revendre cette électricité aux consommateurs et donc concurrencer EDF. Alors, si vous voulez, sur la question des barrages et de savoir si les choses techniquement peuvent bien se passer, en théorie oui. En théorie oui, on peut avoir des cahiers des charges très précis, on peut imposer des contraintes très strictes aux opérateurs privés. Mais la pratique, ça risque de pas être celle-là, parce qu'on est quand même dans un contexte où les pouvoirs publics ont tendance à être d'une gentillesse coupable vis-à-vis des opérateurs privés, parce qu'il ne faut pas pénaliser l'économie, parce que ces opérateurs privés ont aussi des moyens de chantage, et que, notamment de la part d'un gouvernement comme celui qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était le cas aussi des précédents, on peut douter légitimement du fait qu'on ait une contrainte vraiment sévère sur les opérateurs privés.
Oui. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un homme qui s'appelle Guy Pustelny, qui connaît très bien cela, parce que c'est l'ancien directeur d'Epidor. Très joli nom. C'est un syndicat mixte qui se trouve sur la Dordogne. Et le but, c'était de mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire aussi bien EDF, les agriculteurs, les pêcheurs, le monde du tourisme. Et donc, au micro de Philippe Reltien, voici aussi un petit peu son avis.
Pour partager le business. On avait imaginé de faire des sociétés d'économie mixte. Là, moi, je suis plus réservé, parce que dès qu'on parle de business, on parle plus, j'allais dire, de gestion équilibrée de la ressource en eau. On parle business. Par contre, là où je ne suis pas réservé sur cette notion de business, c'est que ces grands barrages sont des éléments rentables et ils ont des impacts à l'aval. Moi, ce que je demande depuis très très longtemps, mais pour l'instant à peu près en vain, c'est qu'une partie de ces bénéfices qui sont sortis de l'exploitation hydroélectrique, la Dordogne, elle est rentable, puisse aider la partie aval, j'allais dire, à mieux s'adapter à la fois à la réalité de la présence de ces barrages et s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire qu'il faudrait que le bénéfice soit partagé, qu'on ait quelque chose de gagnant-gagnant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'exploitation hydroélectrique, elle reste, j'allais dire, dans la partie haute ou auprès de l'État. Et moi, j'aimerais bien que dans ce cahier des charges, on réfléchisse, non pas uniquement à donner des redevances aux communes, mais ce qui le mérite, je dirais, je n'y vois pas d'inconvénient, mais aussi de penser au fleuve, de penser à ce que la gestion d'un fleuve, ça coûte cher, l'équilibre entre les usages, ça se travaille, le maintien du milieu en bon état, c'était quelque chose d'essentiel, et tout ça coûte de l'argent, mais le problème, c'est que l'argent de l'aval, il est payé par l'aval. C'est-à-dire, quand on fait des aménagements piscicoles, quand on essaye de restaurer les berges, ben finalement, c'est les départements de l'aval qui payent tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une nouvelle imagination à mettre pour resserrer le lien entre ce qui se passe à l'amont, là où c'est rentable, et ce dont le fleuve a besoin pour, j'allais dire, vivre sa vie du mieux qu'il peut.
Et en fait, Guy Pustelnik, c'est un avocat du territoire.
Ben, je suis un avocat plutôt de la gestion par bassin hydrographique, c'est-à-dire de travailler à la bonne échelle et puis qu'il y ait une sorte de solidarité amont-aval qui s'installe, mais que cette solidarité, elle soit technique, mais également financière. Mais par contre, moi, ce que je crains, c'est qu'ils ne mettent pas l'emphase, comme on le souhaiterait en tant que citoyen dans la partie aval, sur les compétences environnementales et sociétales. Le plus vieux saumon sculpté qui est vers les Aisy, là-bas, il avait 25 000 ans. Ça fait 25 000 ans qu'on parle saumon sur la Dordogne. On ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Hein. On est un des bassins européens. Il y a 8 espèces de poissons migrateurs. Donc c'est vrai que sur la Dordogne, on parle dévalaison, on parle migration, on parle anguille jaune, on parle tacon et on parle tout ça. Alors effectivement, il y a les barrages qui sont au milieu de toutes ces conversations-là et l'État leur demande d'assurer, j'allais dire, la survie de toutes ces espèces. C'est-à-dire il faut que les saumons adultes remontent, que les anguilles adultes descendent, que les jeunes saumons dévalent. Et si possible, sans passer par les turbines. Donc on parle griffine, on parle écartement de barreaux, et EDF nous répond perte d'énergie et finances.
Alors, question Lévesque, ces propos de Guy Pustelnik, vous qui avez écrit donc la mémoire des fleuves et des rivières aux éditions Ulmer, ça vous parle, ça donc.
Est-ce que le travail qu'a fait Guy sur la Dordogne avec Épidaure est tout à fait remarquable. Ouais. Je crois que ça pourrait peut-être servir d'exemple si on veut envisager une manière de gérer un peu mieux nos rivières.
Et je précise que le travail aussi de Christian Bernad sur le Lot et sur la Truyère est aussi à peu près de la même qualité parce qu'on réunit aussi des sensibilités, on va dire, différentes, des régions différentes, des départements différents. Et tout ceci fonctionne très bien aujourd'hui. Évidemment qu'on peut toujours avoir des critiques, ça c'est incontestable, mais sur les lâchers d'eau, entre autres, etc. Mais globalement, le système fonctionne pas mal, non ?
Le système peut fonctionner correctement. On en a la preuve, justement, avec ces exemples qu'on vient de voir sur la Dordogne et sur le Lot. J'y rajouterai une autre chose, moi, qui me préoccupe quand même tout autant que les barrages, c'est la qualité de l'eau.
Bien sûr.
Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'hydromorphologie. Si la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, ce sera difficile de rétablir une biodiversité dans nos rivières.
Ce qui veut dire qu'il faut une continuité écologique.
Ce qui veut dire qu'il faut une vision globale. Ouais, et je crois que la question de l'environnement et de la qualité des rivières, elle s'aborde toujours de manière sectorielle. Et je crois qu'on a besoin effectivement d'avoir une approche plus intégrée, qu'on appelle systémique en science, mais c'est-à-dire qu'on prenne en compte les différentes composantes du système et les différents enjeux autour de l'utilisation de ce système.
Il a déjà, mettons sur la Dordogne, vous avez 5 barrages. Bon, là il y a 2 opérateurs, il y a Engie, le directeur doit être un ancien de chez EDF, bon bref, ils s'entendent très bien avec les 4 autres barrages, là ça fonctionne. Mais déjà, des barrages morcellent par définition donc une rivière. Mais si en plus on rajoute du privé, alors les gens du privé dire non, vous inquiétez pas, on va s'adapter, etc. Mais on prend peut-être encore plus de risques. En matière de biodiversité, ils vont vous dire on est très écolo, mais
on peut toujours avoir plus de risques. On peut aussi dire ça va bien marcher. Il n'y a pas de
risque. Bien sûr.
Je veux dire que moi je me pose la question quand je vois le marché du gaz à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'opérateurs privés. Est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas. Hein, moi, j'ai pas l'impression que ça ne marche pas. Il n'y a pas énormément de remontée d'huile, comme on dit sur cette question. Mmh. Donc, mais je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on mette en place des structures de coordination au niveau des bassins. Je suis tout à fait d'accord. Et elles existent en partie. Il y a les agences de l'eau, quand même. Hein.
Oui, qui font leur travail, qui sont maintenant au-delà du côté financier, bras armés de l'État financier pour.
Donc, c'est peut-être aux agences de l'eau de prendre en main cette coordination dans le cadre de la gestion de l'environnement.
Un volet justement de biodiversité qui va s'accentuer de plus en plus. Un peu de musique !
Oui, allez.
À la montagne, monsieur l'homme vient d'apporter un cadeau pour faire rêver les châtelaines en Espagne. Les châtelaines en Espagne. À sa ceinture de nuages, à sa parure de forêt, 100 000 bras ont ajouté une couronne de barrages, une couronne de barrages. couronne toute blanche, tissée de fer et de béton. Elle va portant sans façon la semaine comme le dimanche, la semaine comme le dimanche. Et la montagne, bénissant le monde étonné, songe alors à transformer la plaine en vallée de cocagne, la plaine en vallée de cocagne. Tenant en ses mains notre terre, par des fils comme des pantins, pareil à quelques magiciens, elle donne à l'homme la lumière, elle donne à l'homme la lumière. Et les maisons soudain sourient, car de petits et grands garçons apprennent ainsi leurs leçons de science et de géographie, de science et de géographie. On raconte encore aujourd'hui des histoires, on raconte encore aujourd'hui des histoires comme autant jadis.
C'était 1958, CO2 mon amour, France Inter. C'était John Williams en 58. Alors là, on l'a fait, on va dire un peu premier degré, mais c'est incroyable. C'est plus un document qu'autre chose parce que c'était donc la chanson du barrage. Ça sentait bon la bétonneuse, hein. Vous voyez, c'était ça. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de rivières, on va dire, à harnacher. On les a toutes faites. Il y aurait des lobbies de boucliers partout. Une des solutions, c'est évidemment de rendre, plus efficiente. Là aussi, il y a de l'investissement donc à venir. Les différents barrages. Aurélien Bernier, peut-être un petit mot quand même, je veux dire de fin, donc par rapport à tout cela, parce que là on n'est pas encore complètement sur la fin de l'histoire. On a bien, alors il y a quand même des levées de boucliers, bon, tous les syndicats d'EDF, même les cadres, beaucoup, j'en ai eu un certain nombre au téléphone en off qui me disent bah non, on est complètement contre. L'ancien directeur de EDF Hydroélectricité trouve que c'est en fait une décision à 90% qui est idéologique, voilà. Et puis enfin, le grand public ne sait pas forcément donc cela. On ne va pas dire quelle est la suite de l'histoire, mais ça va être quoi. Donc, qu'est-ce que vous sentez, vous, Aurélien Bernier?
C'est compliqué de voir une issue positive à partir du moment où le droit européen prime sur le droit national et où l'Union européenne veut cette concurrence. Le problème, c'est
un peu... Et où les opérateurs ne sont pas forcément mauvais, hein, faut le dire. Il y a quand même des opérateurs qui connaissent, par exemple, StarCraft.
Ah oui,
ça fait 120 ans qu'ils travaillent sur le saumon, si j'ose dire.
Il y a des gens compétents, si vous voulez, c'est pas le problème. C'est vraiment une question démocratique. C'est-à-dire que on est face à un enjeu énergétique et écologique phénoménal. On nous parle tous les jours de transition énergétique, de changement des modes de consommation et de production. Et on avait un service public, et on est en train de le brader pour le confier au privé. Et ça veut dire qu'en faisant ça, eh bien, on confie la transition énergétique au privé, on confie à Total ou à d'autres les choix à opérer en matière de production énergétique. Et ça, c'est dramatique, et c'est justement, à mon avis, ce que le mouvement social aujourd'hui refuse, c'est-à-dire cette confiscation des grands choix qui devraient être opérés de façon démocratique.
Et puis pour que ce soit efficace, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique, si on clique sur la case énergétique, c'est beaucoup plus évident lorsque vous avez une continuité avec un même opérateur. Comme on dit merveilleusement, on peut optimiser les choses.
Oui, bien sûr, et ça va même au-delà d'une filière hydroélectricité prise séparément. C'est l'ensemble de la production électrique où on a une articulation entre les différents modes de production, et on devrait même aller au-delà, c'est-à-dire penser le système énergétique dans son ensemble comme un tout, et pas simplement la production, mais aussi les économies d'énergie. Et pour ça, à mon sens, et c'est ce que je défends dans le livre, On a besoin d'un véritable service public et pas simplement de retrouver les opérateurs publics qu'on avait par le passé, mais d'étendre le service public à l'ensemble du système énergétique et bien sûr derrière de choisir démocratiquement, c'est-à-dire avec la population, les grandes orientations à prendre.
Donc votre ouvrage s'appelle Les voleurs d'énergie, donc c'est aux éditions Utopia. Alors la France n'est pas la seule dans le collimateur, mais enfin elle l'est quand même beaucoup. Il y a d'autres pays qui sont concernés, l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, l'Italie, la Pologne, la Suède, la Slovénie. Voilà, donc là aussi encore tir de barrage sur les fameux barrages en question. Christian Lévesque, peut-être un petit mot de fin donc par rapport à cela, parce que je sais pas, si on prend un exemple aujourd'hui, les lâchers d'eau que fait EDF en fonction des besoins des vallées, ils sont gratuits, ça se passe, voilà, ça se deal, mais c'est gratuit, que ce soit sur l'Arc, le Drac, peu importe, etc. Serre-Ponçon aussi a besoin d'eau pendant le... Est-ce que ce sera ça plus tard? Je sais bien que c'est RTE qui va réguler donc le réseau de transport électrique, mais...
EDF fait ça gentiment, mais on lui a imposé quand même. Hein.
Bien sûr. Ah oui, on lui a tordu le bras. Non, c'est certain.
Ça n'est pas...
Les passes à poisson ne sont pas arrivées toutes seules. Hein.
Voilà. Le travail qu'a fait Guy, par exemple, sur la Dordogne...
Il est formidable.
Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été poussés aussi par la puissance publique. Hein. Je veux dire que EDF n'a pas fait ça seulement pour le plaisir. Mais... je crois qu'il faut quand même rappeler que en France, on est très accro à l'État. Hein.
Oui.
Il y a aussi des exemples de gestion étatique qui se sont montrés extrêmement désastreuses. Hein. On pourrait en citer en Europe un certain nombre. Oui. Donc, moi, je suis pas sûr que l'État soit meilleur que le libéral. Hein. On est dans un débat qui est un débat
Bien
de société,
sûr.
Un
ah,
vrai
oui.
débat de société. L'État, c'est aussi parfois, je dirais. Continuer à faire ce qu'on faisait avant, alors que peut-être il faut changer. On a besoin de temps en temps d'un stress pour changer de direction.
De braquet.
Donc peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à un mixte acceptable. Peut-être que c'est la bonne solution.
Merci à vous Christian Lévesque, merci aussi à vous Aurélien Bélier. Donc la mémoire des fleuves et des rivières, l'histoire des relations entre les hommes et les cours d'eau à travers les siècles, donc ça dépasse évidemment donc les barrages. Bon, c'est un sujet qui est à la fois compliqué, on voulait le mettre sur la table, il est imparfait parce qu'on a encore des tas de choses à dire, mais ça vous donne quand même une idée aujourd'hui du problème, et ça va revenir parce que l'Assemblée nationale s'en est emparée, mais il n'y a pas encore eu de débat à l'Assemblée nationale sur ce thème-là, et ça devrait pas tarder à arriver, parce que là, c'est quand même un peu transparti, hein, quand même, cette affaire-là.
Je vois aux collines odorantes, je vois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
CO2, mon amour.
Je vois à l'azur, à la mer nature.
Sur France Inter.
Et là, on a besoin d'une parole de nature, tranquille, fraîche, une parole d'une petite fille de 8 ans, peut-être qu'elle en a 10 quand même maintenant, Zoé, au moment où je l'avais interviewée. C'est une petite fille, on va aller à Nontron, on va aller dans le Périgord vert, et elle aime les crêpes, elle fait du poney, elle aime sa grand-mère, ses parents, et très bien Zoé, et aussi le grand parc d'un moulin en bord de rivière. Oui, on reste quand même un petit peu dans l'eau. Donc c'est à Nontron en Dordogne, et c'est ici que Cathy Carabin, d'ailleurs au moulin de Masvicomto, accueille des touristes, la nature et les oiseaux. Et Zoé qui est voisine, bah elle y est comme chez elle. Et c'est elle qui va remplir cet après-midi ce petit bol de nature.
Alors ça commence par le son d'un bief qui va se jeter dans une rivière, un petit pont. Voilà. Dans un grand parc-jardin, qui est une petite île en fait, parce que la rivière rejoint derrière. Un beau soleil. Et alors on arrive aussi sur une immense forêt de bambous. Quand je dis immense, c'est parce qu'en fait ils font une vingtaine de mètres de hauteur, à peu près. Alors Cathy... Vous élevez pas des pandas, là?
Non, on n'élève pas de pandas. Il y a de quoi les nourrir, mais ils se plairaient pas dans ce climat-là.
Non, je crois pas. Non, je crois pas. Alors, Zoé,
pourquoi ça te plaît, ce lieu?
Parce que c'est agréable d'être près de l'eau. En plus, c'est un endroit calme.
Ouais.
On est en forêt, donc il n'y a pas tellement de voitures non plus. Ouais. C'est ça qui est bien.
Et alors Cathy, il y a en fait des mobiles que vous avez installés là sur votre petite île qui rappellent la nature en permanence, hein, que ce soit des petits mammifères, des un pot de lait. Ah oui.
La grenouille. Ah oui, elle a là, elle a perdu son pied, regarde. Bon, on va lui remettre, tiens, il est là.
Voilà. Ah,
on va faire une opération
oui.
De sauvetage.
Sauvetage, ça fait du bricolage, mais ça devrait voilà. Fonctionner quoi. Alors pourquoi cette nature elle est si importante et pourquoi il faut la protéger, Zoé ?
Bah parce que sans la nature, nous on serait pas là parce qu'on est des animaux. Si on prend en exemple les abeilles, il y a de moins en moins d'abeilles. Et si on n'y fait pas attention, elles vont plus être là et nous on va plus être là.
Ouais. Les canards, regarde.
Oh.
Un col vert, un
canard. Oh et alors là, sur la rivière, qu'est-ce qu'on voit, monsieur et madame ?
Canard,
ouais.
Il y a un col vert avec donc la femelle.
Oui.
La femelle est plutôt marron clair, beige et marron foncé, avec un peu de noir. Mais sinon, le mâle, il a la tête et le cou tout vert. Au niveau du torse, il est marron foncé. Et il est blanc sinon, et avec quelques plumes derrière, bleu, noir et gris.
Et puis il y a la rivière quand même. Donc
oui.
ça appelle d'autres oiseaux, ça.
Comme les martins pêcheurs ou les cincles.
Ah oui, c'est très... Oh, on vient d'en entendre un.
On a des piquets pêches, on a un couple de piquets pêches au-dessus. Ouais. On l'entend, il est au-dessus sur le...
Tac, tac, tac.
Oui. Sur le terrain, en terrasse, là.
Ouais, ça m'appelle. Ah mais dis donc, il y a un chien de compétition, là, aussi.
Ah oui, eh oui.
Oula.
Mademoiselle Faël, qui heureusement n'a pas vu les canards.
Ah oui, c'est
parce
bien.
Parce que ça, elle aime bien... Oh, si, ouais, si je crois bien. Qu'elle s'énerve. Elle a dû les... Oh là là, ça y est, les amis.
Oh, oui, oui. D'accord.
Et voilà.
Et il décolle, ça y est.
C'est un Westie. C'est...
Ah oui, ah oui.
Oui. Donc oui, un terrier.
Ça y va, c'est dur.
Et oui, oui, oui. Ça fait beaucoup de trous. Et c'est le vigile. Hein, ça, ça...
Oui.
Ah oui, ça y est, on est parti. Le quart d'heure de folie. Oui, regarde, ça c'est le quart d'heure de folie.
Bon. Eh ben voilà, eh ben écoutez, ça
on
va.
On risque pas de voir des chevreuils ni sangliers lorsqu'elle est avec nous. Hein.
Non, parce que
ils attendent qu'on soit parti pour venir boire au bief.
Ah c'est ça. Oui, parce que t'en vois assez souvent toi, Zoé, les chevreuils ici.
Oui. Mais pas chez ma mère, parce qu'on est dans un appartement, mais.
Ah bah oui, c'est mieux
ça. Dans
le
jardin de ma grand-mère, on voit vraiment que des chevreuils, il n'y a pas un seul sanglier. Les marcassins, on les voit très très rarement. Et puis, les chevreuils, on les voit souvent dans le jardin ou bien dans des champs.
Tu l'as vu, toi, le nid d'écureuil, là-haut ? Regarde, tout là-haut.
Ah ouais.
Ils sont plutôt dans cette partie du bois. Et on les voit danser...
Là, tu es en train de ramasser les mousses.
Là, on est devant un espèce de grand tapis de mousse.
Ah oui, oui, oui.
Qui ressemble vachement à des sapins, si on regarde bien.
Ah oui, quand on se baisse, comme c'est ça, vrai qu'on là, prend ça... une petite tige et ça fait un petit... Oui, c'est un petit sapin.
Ouais, ça fait des petits sapins. En fait, on a juste à peine à tirer dessus et on voit que ça ressemble vraiment à un sapin qui est dans l'eau.
Avec une belle racine, hein, qui est presque aussi grande d'ailleurs que la mousse.
Ouais. Ouais. Après, on a ces deux mousses-là, donc une qui fait un peu du lichen, et une, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut à celle-là. Donc la plus courante, en fait, on peut faire des boules, après on peut faire des boudins.
Ah oui.
Ou après, il y a du lichen qui peut pousser donc, sur les pierres, mais aussi sur des branches. Le vert, c'est quand il est tout sec, en fait, et le bleu, c'est quand il est tout frais, tout simplement.
Alors ce qui est drôlement bien, c'est qu'en fait, le lichen, c'est à la fois... c'est une algue, tu vois. Et puis, c'est aussi un petit champignon qui est mélangé. C'est pas mal, hein, ça, comme histoire. Et de temps en temps, tu ramasses aussi des plantes.
Ce que je trouve bizarre dans le trèfle, c'est que tout le monde dit que ça porte bonheur, mais après, on peut pas le savoir. Oui. De toute façon, c'est des gens qui le croient, mais on peut pas le savoir, sinon.
Il paraît même que c'est ceux qui ont quatre feuilles.
Oui, trèfle à quatre feuilles.
Bon, dis donc, là, le chien... bah, regarde le chien, là. C'est... Hop, elle revient. Allez. Et qui
t'a raconté en fait la nature? C'était tes parents ou comment ça s'est passé toi?
Bah en fait au début ma grand-mère aimait beaucoup la nature et elle passait souvent son temps à regarder les oiseaux ou bien les sangliers, les chevreuils, tout ce qu'on voit chez elle donc. Et elle a toujours habité en forêt. Et puis, elle montrait des animaux et moi, je trouve que c'est assez sympa et c'est magnifique. Moi, ça me semble important de la protéger de toute façon parce que... Tout simplement parce que sans elle, nous, on n'est pas là.
L'enfance, une fois de plus, cette colonne vertébrale qui, après, donc, va irriguer toute notre vie. Eh ben, Zoé, je pense qu'elle est sauvée. Hein. Sur la biodiversité, elle est au point. Je ne sais pas ce qu'elle fera plus tard, peut-être dans l'environnement ou autre chose. En tout cas, elle sera sûrement actrice, elle aussi, de son territoire. Des acteurs de territoire, ben, ça s'appelle le répondeur aussi chez nous. 01 56 40 40 35.
Bonjour, Isabelle à l'appareil. Je voulais vous parler d'un très joli festival que j'ai découvert l'année dernière, qui s'appelle le Festival des Forêts, qui est un festival original dont le principe est de tisser des liens entre la nature et la musique. Et ça se matérialise notamment avec des marches musicales de ressourcement, notamment dans la forêt de Compiègne, puisque ça commence cette année le 20 juin, du 20 juin au 16 juillet, je crois. Et donc, ce sont des marches musicales en forêt avec à la fois un musicien et un médiateur qui familiarise le groupe, le public avec le langage des arbres et avec des pauses musicales. Et c'est un très joli moment, c'est à la fois une très belle promenade et puis une sensibilisation sensorielle à la musique et puis un petit peu au langage de la nature. C'est vraiment très bien. Merci, à bientôt.
Je vous en prie, avec plaisir. Donc Forêt Compiègne, tenez un autre message.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Je suis caméra de l'association Pic Pic Environnement, association d'éducation à l'éco-citoyenneté en Île-de-France. Je vous appelle pour vous présenter la 4e édition des Repair Days, qui est le Tour de France de la réparation, en partenariat avec des acteurs locaux et nationaux de la réparation. Retrouvez-nous le 22 juin à Lille, le 26 à Nantes et le 28 juin à Bordeaux. Ce sera l'occasion pour vous de venir faire réparer vos petits objets cassés du quotidien, comme une bouilloire, un grille-pain, un sèche-cheveux, voire un ordinateur. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir les nombreux acteurs de la réparation et du réemploi qui nous entoure, exemple les ressourceries, les artisans locaux, les garages solidaires, etc. Réparer plutôt que jeter, c'est moins de déchets et c'est bon pour le climat. N'hésitez pas à en savoir plus sur notre association, sur le site picpic.org, pikpik.org. Au revoir.
Ben voilà, donc là aussi, donc pas la peine d'aller acheter en permanence. Hein, on est désolé pour ce merveilleux système, mais il y a quand même d'autres solutions. Quand vous avez, je sais pas, j'ai eu ça avec une cafetière, vous allez le couvercle qui pète. Je suis allé dans un repère café et ça va très très bien. Ils vous font ça tout à fait gentiment. J'ai aussi sous les yeux, puisqu'on a parlé de fleuve, le numéro de relief. Alors relief, c'est un MOOC, comme on dit, très joliment. Et donc il raconte merveilleusement l'histoire des fleuves, les relations donc avec les hommes, parce que ça, donc c'est aussi bien soigner les fleuves. Vous avez un entretien avec Eric Orsena, on part de la Mésopotamie, etc. Je vous souhaite plein de choses agréables pour ce week-end. Vous voyez, je commence par la fin, mais c'est quand même c'est très sincère. L'émission a été concoctée avec Camille Blanès. Merci à Philippe Reltien pour ses sons. Jérôme Boulet l'a réalisé. Thierry Dupin a choisi les disques. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Et puis la semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison. Ah ouais, quand même, la dernière saison. Il y aura à la fois autour de cette table Pablo Servigne, Alain Grandjean, Éric de Kermel, avec des ouvrages différents. Et puis le podcast, vous le savez, vous en avez l'habitude, ne vous gênez pas. La tuile du Montilus, ce sera à 19h54 après les Tibatos. Ce sera demain. Salut à tous.